noch ein paar Gebete haben.
Tu vas avoir encore quelques prières. Ne crains point de ce que tu vas souffrir. Seigneur, nous te faisons confiance.
Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort.
Nous te remercions pour ta parole ce soir. Que tu puisses nous apparaître dans cette communion. Merci, Dieu. Un Dieu qui parle directement à ton Église. Et cette parole, on va la recevoir directement. Tu puisses parler à ton Église dans tous les chandeliers d'or. Merci que tu nous donnes de l'huile fraîche. Tu es le souverain sacrificateur. Merci que tu nous combles de tes richesses.
Amen.
Louez le Seigneur. Louez le Seigneur.
Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Louez le Seigneur. C'est si bon d'avoir de la communion sur la parole. Et je crois que la communion ce matin sur Éphèse nous a touché qu'on n'entende pas seulement sur la parole, mais bien plus que nous nous repentions et que nous revenions au Seigneur. Le pire, c'est que nous restons ainsi. Il n'y a pas de changement et le Seigneur revient. Alors là, on va être mis en honte. C'est pour ça que je remercie le Seigneur aujourd'hui de nous parler directement une parole claire et directe afin qu'aujourd'hui, nous ayons l'occasion de se repentir et d'être corrigé par le Seigneur. Le Seigneur qui nous a encore donné ce temps de la grâce. Pour cela, je suis vraiment très reconnaissant. Et aujourd'hui, nous voulons encore avoir de la communion sur la deuxième écrit sur l'église à Smyrne. Est-ce qu'il y a un résumé?
Amen. Amen. Doch, wie wir schon in der ersten Versammlung gehört haben,
comme on a déjà entendu dans la première réunion,
schätze ich auch sehr das Sendschreiben zu der Gemeinde in Smyrna.
Merci beaucoup. L'écrire à l'église à Smyrne, pourquoi? Parce que c'est si court. Ça a seulement 4 versets. Louez le Seigneur. Le Seigneur n'a pas plus à dire à l'église. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces 4 versets de l'église à Smyrne, ils parlent chacun de ces 4 versets, ils ont seulement un thème. Il y a seulement un fardeau dans chaque verset. Et ça, c'est les souffrances. Dans chaque verset, on a des souffrances. Dans ce court écrit. Souffrance est un aspect important dans la vie de l'Église. Ça appartient à cela. Peut-être qu'on aimerait bien avoir apprécié et seulement apprécier le Seigneur, l'arbre de la vie, comme nous avons entendu dans Éphèse, là il est même dit, l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, là nous sommes très volontiers, le paradis de Dieu, ce qui est aussi bon, et nous devons aussi apprécier le Seigneur et manger le Seigneur. Mais la deuxième église nous montre que il y a encore une partie importante avec laquelle nous tous, nous devons nous occuper. Et sans cela, ça ne va pas. Et ça, c'est les souffrances. Peut-être c'est pas si populaire, un sujet si populaire, mais ça va dans, par toute l'écriture et l'église à Smyrne nous montre du nom qu'il en vient des souffrances. Smyrne, ça signifie la myrrhe. C'est aussi une épice qui est utilisée quand le Seigneur a été enterré. On a mélangé, on lui a donné du vin mélangé avec la myrrhe et ça nous montre que là, il en vient de souffrir. Et déjà, dans le premier verset, le Seigneur nous a donné une image que dans son chemin en tant qu'homme, il est passé par tant de souffrances, même jusqu'à la mort. Philippiens 2 nous dit il a été obéissant jusqu'à la mort, et même à la mort à la croix. Et c'est ce que nous dit le premier et le dernier qui était mort et qui est à nouveau vivant, qui est revenu à la vie. Le Seigneur lui-même, même le Seigneur, en tant que notre modèle, devait, dans son humanité, être perfectionné par les souffrances. Il ne pouvait pas être perfectionné sans souffrance. Même le Seigneur, bien qu'il n'a rien à faire avec le péché, il n'a pas péché. Mais dans son humanité, il n'en venait pas sans être perfectionné sans souffrance. On peut lire dans Hébreux 5. Là, il est dit, en verset 7, et dans les jours de sa chair, dans le chapitre 5, qui parle du souverain sacrificateur, c'est celui qui marche parmi les chandeliers d'or. Le sacrificateur d'après l'ordre de Melchisédek, au verset 6 et au verset 7, il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils. Ça, nous devons le voir aujourd'hui. Bien qu'il soit fils, il n'y a pas d'exception. Mais parce qu'il a apprécié, il a appris l'obéissance. Qu'est-ce que nous dit Hébreu? Là, il nous montre parce qu'il a, par les choses qu'il a souffert, il a appris l'obéissance. On peut nous se demander pourquoi est-ce que le Seigneur, en tant que Jésus, le Fils de Dieu, apprend l'obéissance. Mais ça doit nous montrer que pour que l'humanité parvienne à maturité et que le plan de Dieu puisse être accompli, il n'en vient pas sans la souffrance. Ça ne va pas. Pour ça qu'il est dit au verset 9, et après avoir été élevé à la perfection, même le Seigneur, partant de souffrance pour être perfectionné dans son humanité. Tous les psaumes, ou bien beaucoup des psaumes, parlent combien le Seigneur a vécu de souffrance et est passé par là. Même dans le psaume 22, il est décrit la souffrance du Seigneur à la croix en détail et dans des choses précises par quoi le Seigneur a dû passer pour nous aujourd'hui, comme il a dit. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Le Seigneur était le premier dans la nouvelle alliance, ou bien dans notre siècle, a été perfectionné par les souffrances. Et ensuite, il est dit plus loin, dans, si on revient à Apocalypse, l'écrit à Smyrne, Apocalypse 2, après que le Seigneur soit présenté en celui qui est le premier, qui était dernier, qui était mort et revenu à la vie, il dit ensuite à l'Église, je connais ton affliction. Après que le Seigneur soit perfectionné par la mort, par les souffrances, pardon, alors maintenant c'est à notre tour. Maintenant le Seigneur dit, je connais ton affliction, l'affliction de l'Église. Et ça nous montre que le Seigneur nous a donné ce chemin, mais nous le suivons sur exactement le même chemin. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Là, nous le voyons déjà au début, bien même dans toute cette écriture. Tous les prophètes qui ont prophétisé pour le Seigneur, ils ont souffert. Il n'y a pas de prophète qui n'a pas souffert pour le Seigneur. Qui des prophètes n'a pas été persécuté? Dans les prophètes, il y avait seulement deux options s'ils ont parlé la parole de Dieu. Soit ils ont été persécutés et ils ont parti tués, ou on leur a pris des paroles et ils ont suivi Dieu. Il n'y avait pas d'autres réactions. Et ça, en étant de prophète, qu'à la fin, beaucoup d'eux ont été tués. Étienne a dit dans son, parce qu'il a dit, quel prophète nous n'avez-vous pas persécuté? Et ça, c'était déjà avant que le Seigneur soit venu. Et déjà au début, ses disciples dans Actes, il leur a dit comment ils doivent entrer dans le royaume. On peut lire dans Actes 14. Dans Actes 14, au verset 22, il est dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, louer le Seigneur. Si quelqu'un nous fortifie dans la foi, nous nous réjouissons. Amen. Je reste volontiers dans la foi. Mais ça, c'était pas la fin. La phrase continue. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça, c'est vraiment l'entrée dans le royaume de Dieu? Par beaucoup de tribulations?
Oh, Herr. Genauso wie zu der Gemeinde in Smyrna.
Exactement comme dans l'église à Smyrne, le Seigneur a dit, je connais ton affliction. Autrefois, les disciples avaient déjà appris cette leçon. Déjà dû apprendre cette leçon. Mais aussi Pierre a dit la même chose dans 1 Pierre 4. Je lis le verset 1. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous. De quoi? De la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché. Est-ce que vous êtes revêtu? Vous êtes armé de la même pensée. Peut-être si on vient dans l'église, on se réjouit tant. On se réjouit que nous avons trouvé Sion. Et ça, c'est aussi merveilleux. Louez le Seigneur pour cela. Seigneur pour Sion sur cette terre. Mais ce soir, j'aimerais tous vous encourager, nous qui sommes à Sion, que nous nous armions de la même pensée. Et la pensée était, Christ a souffert dans la chair. Tu t'armes seulement si tu sais quand tu sors. Alors il y a quelque chose qui va venir vers toi parce que sinon t'as pas besoin d'être armé.
Si
j'assais ma fille pour manger son déjeuner, je dois lui mettre une bavette parce que je sais ce qui va venir. Et maintenant, je dois avoir marmé la même pensée, la pensée du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin dans le royaume de Dieu que par beaucoup de tribulations. Mais pas seulement Pierre avait cette représentation, aussi Paul. Quand il a écrit à l'église à Corinthe, à ce temps, il y avait probablement beaucoup de différents apôtres dans l'église à Corinthe. Ils sont allés, ils sont venus et ils ont parlé de quelque chose un peu identique qu'à Éphèse, ils ont aussi eu des apôtres. Et à un moment, Paul a dû justifier son service d'apostolat et il a dû prouver aux Corinthiens pourquoi lui, il est un serviteur de Christ. Et il y avait tant qu'il était là, et ils ont demandé une preuve de lui que Paul est vraiment un apôtre de Christ, un serviteur de Christ. Ils ont demandé une justification. Et quel était son premier point dans sa justification? Qu'il est vraiment un apôtre de Jésus-Christ. On peut le prendre dans 2 Corinthiens. Chapitre 11. De Corinthiens 11, à partir du verset 23. On a une merveilleuse dans la Bible, merveilleuse sous-titre. Justification du service d'apostolat. Quel était son premier point? Est-ce que quelqu'un l'a? Est-ce que c'était parce qu'il était, il avait un don pour parler? Paul a dit, je peux parler si fortement que c'est pour ça que je suis un apôtre. Mon œuvre est si grande que c'est pour cela que je suis un apôtre. Est-ce que c'était sa justification? Le premier point là, c'est beaucoup de tribulation, d'affliction. Et dans ce qui suit, il y a une liste de différentes afflictions par lesquelles elle a dû passer. Vous pouvez lire vous-même à partir du verset 23. Plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus. 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, etc., etc. Cette parole, il l'a donnée en tant que, pour se justifier qu'il était un serviteur de Christ. Je ne crois pas que c'est dans nos représentations que cela, c'est le premier point de sa justification. Dans l'épître aux Philippiens, c'est exactement la même chose. Il confirme se justifier. Si on pense au Seigneur, ou si on pense à nos vies journalières, si on prend très souvent, on accepte très souvent des cadeaux. Si quelqu'un vient à la maison et il aimerait t'offrir quelque chose, ah, merci, merci, viens, tu peux venir, bienvenue, on se réjouit de chaque cadeau. Mais ça dépend quel cadeau nous recevons dans Philippiens 1, verset 29. Il est dit, et cela vient de Dieu. Le premier cadeau, c'est de croire en Christ, louer le Seigneur. On prend ce cadeau très volontiers. De croire en Christ, un merveilleux cadeau, je crois que nous qui sommes là ce soir, on remercie le Seigneur pour ce merveilleux cadeau. Louez le Seigneur. Est-ce que c'est le seul cadeau que nous avons reçu? Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. De souffrir pour lui, je ne sais pas si ça c'est dans notre représentation. Dans la mienne, c'est pas encore si ancré, mais j'apprends à louer le Seigneur. Que c'est un cadeau si nous souffrons pour Christ, pour sa volonté. Ça appartient à cela, c'est une partie de notre vie de croyant et dans l'Église. Mais Paul n'était pas complètement à plat au sol, mais au chapitre 2, et dire, on est ma joie parfaite. Comment est-ce que c'est possible? Il a eu tant de joie dans toute sa joie parce qu'il a regardé au Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Et dans Philippiens 2, à partir du verset 5, il parle des sentiments de Jésus-Christ. Et les sentiments de Jésus-Christ étaient le plus obéissant jusqu'à la mort à la croix. Ces sentiments soient en vous. On doit nous armer de ces pensées, de ces sentiments. Nous avons vu les apôtres, les prophètes, les disciples, tous avaient cette compréhension. Même Jacques dit, nous devons nous réjouir dans les épreuves. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce que c'est pour nous aujourd'hui différent? Je dois dire de moi, je ne souffre pas si volontiers. S'il y a quelque chose où je remarque, oh là, il y a quelque chose qui vient vers moi, alors j'essaye de faire un grand arc là-dessus. plus l'arc est grand, plus c'est mieux. Et après, je peux me cacher, je ne dois plus revenir. Je crois que c'est en beaucoup d'entre nous, les souffrances ne sont pas si agréables, même dans les petites choses. Je ne suis pas prêt de souffrir un peu pour le Seigneur dans la vie de l'Église, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions pour le Seigneur, pour sa volonté de souffrir un peu. Si quelqu'un nous critique un peu, ou peut-être nous reproche quelque chose, est-ce qu'on peut le prendre et un peu souffrir? Ou on a beaucoup d'explications, beaucoup de réactions, et beaucoup n'est pas satisfait dans nos cœurs et c'est si difficile d'accepter quelque chose. Mais ça, c'est seulement des petites choses, il n'en vient pas de grandes choses. Bien sûr, les grandes choses, en lien avec la vérité, c'est une autre chose. Mais il y a souvent des petites choses, des pensées qui sont différentes. Si rarement, on n'est pas prêt à souffrir, on explose directement comme un volcan. Et on peut tant se justifier pourquoi est-ce que là, on avait définitivement raison. Et d'avoir raison, je dois le prouver à tout le monde. Je dois téléphoner ou écrire et faire ci et ça. Je ne suis pas prêt de prendre ce cadeau et de dire au Seigneur, Amen. Je l'accepte pour ta volonté, pour la volonté de l'unité, pour la volonté du royaume, particulièrement s'il en vient des petites choses, pas pour la vérité, je ne parle pas de la vérité, mais il y a tant de choses qui peuvent nous occuper intérieurement pendant des jours entiers ou pendant des nuits. On ne peut pas être empêché de cela, c'est difficile de souffrir et à la fin on murmure. On murmure de ceci, de cela, de ce frère, de cette situation, de ces circonstances. Et qu'est-ce qui reste à la fin? C'est une expression du visage de mire. Est-ce que vous avez déjà vu un visage d'expression de mire? Est-ce que vous connaissez le meilleur médicament contre un caractère de mire, frère?
Echte Myrrhe.
Myrrhe, Amen, genau.
Un vrai mire.
Das ist die echte Myrrhe, nicht mürrisch.
Myrrhe ist so eine wunderbare.
La mire, c'est un merveilleux médicament contre nos murmures. Si je remarque,
bin ich eigensinnig. Hartherzig.
J'ai un cœur dur et je ne suis pas prêt d'accepter quelque chose et je commence à murmurer et je vais au Seigneur et je cherche un peu de mire. Dans le cantique des cantiques, il est même dit que ses lèvres sont pleines de mire qui coule. C'est pas mal, on vient au Seigneur et il nous donne un peu de sa mire. Il nous rend un avec sa mort. Et ensuite, nous allons aussi être prêts pour sa volonté, de souffrir pour sa volonté. C'est si bon d'expérimenter la mort du Seigneur, pas seulement une fois lors de notre baptême, bien sûr, au début, quand nous avons été baptisés, l'Écriture nous dit, à ce temps, nous avons été baptisés dans sa mort. Le Seigneur, dès au début, par le baptême et cette conscience, nous devons rester dans la mort du Seigneur. Déjà dans le baptême, il a déposé ce fondement. Mais comment est-ce que c'est ensuite? On peut lire 1 Corinthiens 15, verset 31. 1 Corinthiens 15, 31. La Paul dit, chaque jour, je suis exposé à la mort.
Je
l'atteste par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ votre Seigneur. Le verset différent en allemand, il dit qu'il est exposé à la mort chaque jour. Est-ce qu'un croyant peut mourir plusieurs fois? Je suis exposé à la mort chaque jour. Qu'est-ce que c'est comme une attitude saine? Si quelqu'un m'offense ou m'énerve ou fait quelque chose où je remarque, là, il y a quelque chose qui gratte dans mon cœur, alors ça, j'aimerais écrire cela dans mes pensées. Je suis exposé à la mort chaque jour, et pas seulement chaque jour, mais dans Romains 8, 36, il a encore dit quelque chose. Si chaque jour ne suffit pas, dans Romains 8, 36, selon qu'il est écrit, c'est une situation du psaume 44, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Au début, c'est chaque jour, et ensuite, c'est tout le jour. On nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Une telle conscience. Le Seigneur l'a œuvré en Paul. C'est pour ça que le Seigneur dit aussi dans l'église à Smyrne, cette merveilleuse phrase de l'église à Smyrne. On avait le verset 9, je connais ton affliction et ta pauvreté. Ça continue, verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Aujourd'hui, dans la partie du monde où nous vivons, personne ne va nous emprisonner parce que nous suivons le Seigneur. Pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas encore l'occasion de mourir physiquement pour lui. Mais il y a des merveilleuses petites occasions d'expérimenter la mort du Seigneur dans notre famille, dans notre vie de l'Église. D'où c'est que nous avons la communion, nous habitons là. Le Seigneur aimerait que nous expérimentions sa mort. Et ensuite, il est dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit ça? Soyez fidèles jusqu'à la mort. Parce que il y en a tant qui, à cause des souffrances, sont abandonnés. Et beaucoup de tribulations qui sont venues sur eux, de la famille, de la parenté, du l'employeur, de la propre famille ou de n'importe où. Et à la fin, ils ont été frustrés, ils ne pouvaient plus le porter, ils sont partis. C'est pour ça que le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est si bon que nous ayons un tel sentiment. Mais ce qui est merveilleux ici, ce n'est pas nos propres souffrances. On doit serrer les dents et avec des dents, en grinçant des dents, mais bien plus. C'est la souffrance de Christ. On peut encore lire Colossiens 1. Colossiens 1, verset 24. Je vous le lis. Là, il est dit, c'est un bon début. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église.
C'est
des souffrances pour vous, pour les saints qui sont là, pour l'Église. Mais pas n'importe quelle affliction, mais c'est les afflictions, souffrances de Christ. Si ce n'est pas les souffrances de Christ, et si nous ne souffrons pas par Christ, alors nous ne pourrons pas le soutenir longtemps. L'Église à Smyrne dit, vous aurez une tribulation pendant 10 jours. Mais si ce n'est pas les souffrances de Christ par laquelle ce que nous saisissons, alors je ne sais pas si on pourra tenir 10 jours, même pas 10 jours, même pas peut-être 5 jours, et peut-être même pas un jour. Mais dans toutes les souffrances, dans ces difficultés et ces afflictions, c'est si bon de regarder à Jésus, de regarder à lui, pas de le faire par nous-mêmes, mais nous tournons nos regards vers celui qui est déjà passé par toutes ces choses, comme il est dit dans Hébreu. Je vous le lis, un verset connu. Il est si merveilleux dans ce lien, Hébreu 12, 2. Ayant les regards sur Jésus. Ça, c'est le regard juste dans toutes les tribulations, de regarder à Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Exactement comme le Seigneur se représente à Smyrne, il est le premier et le dernier. Il est le commencement et celui qui achève.
Amen. En
échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. C'était le chemin, comment le Seigneur a pu souffrir la croix. Il a vu la gloire devant lui, la joie à venir. Et je crois que c'est pour nous un merveilleux exercice que nous ne regardions pas à la situation des souffrances, mais que nous regardions à la joie à venir. La gloire qui vient. Mépriser l'innominé et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est merveilleux. Et Pierre nous a aussi encouragé, nous a montré pourquoi ce petit temps de souffrance est bon. Dans 1 Pierre 5, verset 10, il est dit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Cela, nous sommes appelés et nous voulons tous entrer dans la gloire. Est-ce que nous ne voulons pas entrer dans la gloire dans laquelle vous avez été appelés? Dans tous les cas, c'est notre but. C'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons avoir part au royaume à venir. Mais qu'est-ce qu'il est dit là? Vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, après que vous aurez un petit peu souffert, un peu de temps souffert, 10 jours. C'est un petit temps. C'est pas si long. Il y a aussi une fin, mais nous devons regarder à lui. Souffert un petit moment, et quel est le résultat? Vous perfectionnera lui-même, vous s'affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de souffrir un peu, de laisser son opinion pour tolérer les frères et sœurs, de ne pas se justifier tant, de réagir, de murmurer? C'est bien mieux et bien plus beau que le Seigneur nous perfectionne de son temps, nous perfectionne, nous affermit et nous fortifie. Et le merveilleux résultat, c'est ce que le Seigneur a déjà dit à Smyrne, ce que nous allons recevoir dans le même verset. Je reviens à Apocalypse 2. Là, il est dit, verset 10, vous aurez 10 jours de tribulation, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Est-ce que vous ne voulez pas recevoir une couronne de la vie? Oui. Dans le royaume à venir, nous voulons régner avec le Seigneur. Ça, c'est notre but. Nous ne voulons pas être jetés dans les ténèbres dehors. Nous voulons s'asseoir avec le Seigneur sur son trône. Nous ne voulons pas avoir part à la deuxième mort. Non, nous voulons recevoir la couronne de vie. Et ça, c'est la promesse du Seigneur à Smyrne. Ça veut dire ces souffrances, passées par les souffrances de Christ, nous amènent au final la couronne de vie. Et ça, c'est ce que Paul a aussi dit. Je lis dans 2 Timothée 2, verset 12. 2 Timothée 2, verset 12. Il est dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. D'autres traductions disent, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Est-ce que vous voulez régner avec lui? Personne ne le veut. Vous savez, c'est que la deuxième question, c'est pour ça que personne ne dit Amen. Là, il est dit, si nous souffrons, alors nous régnerons aussi avec lui. C'est une merveilleuse attitude de se tourner ainsi si dans ces jours, nous apprécions pas seulement ou nous expérimentons le Seigneur d'une certaine manière, mais que nous puissions nous armer de la pensée de souffrir pour que nous puissions recevoir la couronne de vie. Et ensuite, nous ne devons pas expérimenter de souffrance de la deuxième mort quand le Seigneur revient.
Amen. Amen.
Que nous soyons encouragés et que nous puissions regarder sur Jésus. Et ces derniers temps, nous avons aussi de la communion sur les armes de Dieu et d'être prêt à souffrir, ça appartient ce qu'un soldat de Christ, ce qui appartient aussi à ses armes, qui appartient aux caractéristiques d'un soldat.